matière, et quand cette lumière de l'intérieur donne sa forme à une matière, que je constate, je vois que c'est une réalité naturelle. Tandis que quand c'est une lumière qui est venue de l'imagination d'un artiste qui a donné sa forme à une matière que je constate, cette forme a été imposée de l'extérieur. Dès que c'est une forme intérieure à cette réalité, et qu'elle donne sa forme à sa matière, c'est une réalité naturelle. Je pense que là, c'est très facile. Il n'y a rien de plus facile que sur l'induction de la physis, nature, forme. Un principe. Et si tu regardes effectivement un appareil, un livre, un stylo, tu aperçois que la forme qu'a cette réalité, c'est pas une forme qui lui vient de l'intérieur. C'est l'homme qui lui a donné cette forme de l'extérieur. Elle lui vient de l'extérieur. À chaque fois que donc je le vois pour toutes les réalités naturelles, donc c'est facile de faire l'induction. Il y a donc un principe, et ce principe il existe, sinon cette forme naturelle n'existerait pas. Sinon tout serait artificiel, mais tout n'est pas artificiel, on sait bien. Voilà. Et on en fait l'expérience, c'est pas un a priori. On pourrait dire, après tout, le créateur c'est peut-être quelqu'un qui. Sans arrêt, fait les choses artificiellement comme ça de l'extérieur. Ben et ça, c'est l'induction qui me permet de la physis nature, qui me permet d'affirmer que non, c'est pas un artiste à notre manière, à nous. La nature opère ses formes de l'intérieur, de la matière, en vertu d'un principe que je découpe par induction. Ça va? Lorsque c'est l'âme, ah alors maintenant, je regarde dans le domaine des réalités, pas seulement des réalités naturelles, parce que parmi les réalités naturelles, il y en a un certain nombre qui sont des réalités vivantes. Il y en a qui ne sont pas vivantes, et il y en a qui sont vivantes. Et évidemment, moi, en principe, je suis vivant aussi. Donc ça, c'est facile, vous avez vu, regardez, vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est pour ça que la vie, elle n'est pas communiquée de l'extérieur, la vie est... Elle est en moi, elle est vraiment à l'intérieur, de toute façon je suis déjà réveillé à ce phénomène du principe à l'intérieur même et au centre même d'une réalité que je touche. Hein. Mais attention, là je vois qu'il y a quand même un phénomène nouveau, c'est pas seulement la forme de cette réalité vivante, parce qu'une forme ne suffit pas à expliquer comment il y a une autonomie, que le mouvement s'opère par lui-même, de manière autonome et de l'intérieur. Donc il y a un certain type de mouvement, qui n'est pas un mouvement d'électrons, ni un mouvement de dilatation, ni un mouvement proprement physique, par des phénomènes de vibration, ou de fréquence, ou de bousculade de quanta, enfin bref. Non, c'est pas seulement physique, il y a une vie, il y a une autonomie. En général, la vie commence à partir du moment où il y a assimilation. À partir du moment où tu te nourris. La nourriture, le fait de prendre quelque chose d'autre que toi, de t'en nourrir, de transformer en toi, ah, ça c'est déjà un signe de vie. On marque bien que dans le minéral, il y a quelquefois, enfin dans le monde minéral, il y a quelquefois des choses comme ça. Mais ça reste quand même des phénomènes plutôt de mutation que d'assimilation. Parce qu'à partir du moment où il y a assimilation et transformation, l'algue par exemple, ou la plante qui prend dans la terre, et elle prend dans la terre les éléments dont elle a besoin pour transformer en cellules d'elle-même. Il y a la respiration aussi. La respiration, c'est également quelque chose qui montre qu'il y a quelque chose de plus que qu'un principe qui donne la forme à la plante. Quelque chose de plus. La plante, elle grandit, il y a une croissance. Comme expliqué le passage du blanc au chêne, hein, pour la vie. Il faut qu'il y ait de la vie. Donc on a essayé de regarder l'induction de l'âme, bon, l'induction de ce qu'on appelle l'induction de l'âme. Bon, je crois
crois que c'est facile.
Hein? Indique son âme pour caresser à l'intérieur de vous. J'assimile, je me nourris. Ça se transforme en moi-même. C'est quand même assez extraordinaire. J'essaie de comprendre simultanément ce que me dit Aristote, ce que me dit Heidegger, ce que me dit Freud. J'essaie de le comprendre, je l'assimile, je le transforme et je me fais moi-même ma propre pensée, qui n'est pas la même que celle de Freud, Aristote et Heidegger. Aussi, c'est une opération de vie, ce que je pense, ce que je réfléchis. Alors, vous voyez, là, j'ai déjà deux opérations de vie, ça me suffit pour faire l'induction, parce que j'ai une multiplicité, en même temps, il n'y a qu'une seule vie qui fait ça. Et c'est deux opérations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui sont pourtant simultanées. Et donc, il faut bien qu'il y ait à l'intérieur, plus profondément que cette constatation, quelque chose qui l'explique. C'est donc un principe. Il y a un seul principe qui explique toutes les opérations de vie, sinon je serais disloqué. Marquez bien, voyez bien, quand on fait toutes ces mystiques un petit peu yogis, zen, zazen, bouddhistes, tantristes, etc., médiumniques et compagnie, énergético-ésotériques, bon, eh bien, on procède précisément complètement en dehors de l'induction de l'âme, puisque il s'agit de mettre à jour en dehors, indépendamment du corps, un corps subtil, indépendamment du corps subtil, un corps éthérique, indépendamment du corps éthérique, un corps je sais pas quoi, voyez. Et donc on met des couches, on est une poupée russe, hein. Il n'y a pas du tout un seul principe, hein. Alors on décompose en couches. C'est le fin du fin, ça. Alors, si je me mets dans un certain état, à ce moment-là, les pouvoirs de mon corps subtil apparaissent. Ça va être des pouvoirs, je peux guérir, je peux avoir. Vous voyez, il faut trouver les pouvoirs pour guérir. C'est typique, parce que vous voyez, il y a un petit peu du. L'homme contemporain est complètement décérébralisé, il est complètement à la périphérie, hein. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop grossier à la périphérie. Alors un pouvoir, ça reste un petit peu intérieur, le corps subtil, finalement. Mais donc pouvoir vivre au niveau du corps subtil, en séparant finalement quelque part par rapport au corps physique, et le corps subtil étant encore quelque chose de séparable par rapport à un corps éthérique, par rapport à un corps astral, par rapport à un corps, enfin vous voyez, il y a 7 ou 8 couches, je crois. Alors eux, en réalité, dans ces pratiques-là, ésotériques, ils vous divisent vous-même, ils coupent en... On peut te couper, c'est vrai. Intentionnellement, tu pourrais, à la limite, effectivement, opérer ces phénomènes de dissociation. C'est pour ça qu'on va dissocier par exemple des chakras, on va trouver des centres d'énergie ici, là, etc. Enfin, dans les différents chakras, vous voyez. Et alors là, il suffit par phénomène de concentration, de monter du kundalini, hop, d'ouvrir des centres d'énergie. Mais en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une réalité vivante qui était une, j'ai fait des, comme quelquefois avec l'image de fer, tu sais, tu mets des systèmes de magnétiques et rassemblement ici, tu vois. Je peux faire ça, mais c'est artificiel. Il faut une méthode initiatique, et comme on a un capital de vie qui est limité, je mets mon capital de vie à faire ça, et du coup je ne vis plus au niveau de mon âme. Donc l'induction de l'âme est quelque chose de très utile pour comprendre qu'il y a une seule âme. Cette âme, elle a des opérations magnétiques, elle a des opérations biologiques, elle a des opérations énergétiques, elle a des opérations spirituelles, des opérations mentales, des opérations... Vous voyez, c'est pour toutes sortes d'opérations, des opérations donc essentielles, substantielles. Voilà. Mais c'est une seule âme. Donc un être humain, s'il veut être un, c'est ça une personne humaine, c'est quand on est unifié. Eh bien, il ne peut pas s'investir en se divisant. Il donne sa vie, il donne pas... Enfin, l'induction de l'âme est quelque chose de très important, en tout cas, c'est sûr. Il faut quand même faire très attention à ça. Que l'âme ne se divise pas. Mais c'est comme le fromage de gruyère dans une marmite, quand on prend la fonte de fromage de gruyère dans une belle, une énorme marmite pour faire une fondue. Bon, c'est vrai, je peux prendre le fromage de gruyère avec une louche et puis ça fait comme un élastique et balader le fromage de gruyère en dehors de la marmite. Mais c'est pas. Pour l'âme, c'est pas bien de faire ça. Si tu tires trop l'élastique, un jour il va péter. Et de toute façon, ça fatigue. Voilà. Alors, donc l'induction de la substance maintenant. Ah, alors l'induction de la substance, c'est tout à fait autre chose. Ah oui, à propos de l'induction de l'âme, je vous avais dit hier, à la mort d'un ami. Je me rappellerai toujours, quand j'avais assisté une fois, à la mort de Sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline, c'était une sœur ermite de Montmorin, elle avait 80 quelques années. Elle était marrante comme tout, très, très nerveuse, elle se mettait dans la colère noire, etc. Elle était toujours, elle supportait pas, je sais pas, elle était très susceptible. Montmorin, vous savez, les ermites, c'était un peu spécial, hein. On avait, au début, lorsque j'étais à Montmorin, je m'occupais d'un vieil ermite qui était... qui avait des vaisseaux sanguins dans le cerveau avait claqué. Alors vous imaginez ce que ça donnait comme ermite. Et évidemment, on part à amour pour lui, parce que c'était vraiment un grand bonhomme. Enfin, on lui faisait faire la messe. Pas directement, qu'on célébrait. Alors, le père Emmanuel disait la messe, puis il tentait quelquefois, il y arrivait. Il tentait de lui faire faire une des lectures, tu sais. Seigneur, nous te prions pour le pape Jean-Paul II, enfin à l'époque c'était Jean-Paul II, Jean-Paul II, notre évêque Georges, etc., et tous les prêtres, alors lui, il savait pas, nous te prions pour le pape Jean-Pierre 47, c'était notre pompe et tous les parachutés, enfin tout le peuple des rachetés, hein. Et tous les parachutés, enfin évidemment, le père Emmanuel qui se précipitait à célébrer la messe, hein, quand tu avais une cascade d'erreurs de lecture comme ça, tout le monde éclate de rire évidemment, et le père Emmanuel aussi, et la petite sœur Jacqueline. Sortez de la chapelle. Claquer la porte, c'est pas une messe comme ça, on est gentil. C'est toute petite, une espèce de lunette très épaisse, c'est marrant, c'est toujours en colère. Mmh. Bon, bref, c'était une pile quoi, électrique. On était. Quand on a une pile électrique, on s'accroche, hein. C'est assez impressionnant de voir ça. Et l'âme est dans la peau. Quand c'est un enfant qui meurt, la mort est immédiate. L'âme n'a pas de mal du tout à se décrocher, à se séparer. Parce que au bout de 85 ans de vie, et surtout si c'est des gens qui sont contemplatifs, qui travaillent, etc., qui réfléchissent, qui prient, etc., alors l'âme tout entière est de plus en plus dans le corps, de plus en plus enracinée dans le corps. De sorte que la mort est beaucoup plus... la séparation de l'âme et du corps est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Là où un enfant mourrait en 5 minutes, elle a mis 7 mois. Elle a eu un cancer du pancréas. Moi, la médecin me dit, maximum 10 jours. 10 jours maximum, 6 mois après, elle a mis encore. Et c'est vrai que c'était marrant. Enfin bref, quand même le dernier jour, par un coup de chance incroyable, faut dire qu'elle avait dit toute sa vie,
ah, Seigneur, moi je veux donner ma vie pour toi. Hein. Je veux mourir le jour de samedi. Hein, samedi. Je ne veux pas avoir un autre jour. Samedi.
C'est pas plus l'air. Bon, samedi. C'est cool, quoi. Et puis, comme elle avait fait alliance avec Marie-Reine, elle a dit, ah, moi je veux mourir le jour de Marie-Reine. Elle avait dit ça quand elle avait fait alliance avec Marie-Reine. Hein. Hein? Alors du coup, seulement un samedi 22 août, et elle n'a pas toutes les, tous les ans. Hein. Donc cette année-là, ça tombait le 22, samedi 22 août. Mais seulement elle devait mourir 6 mois avant, d'après l'état de son corps. Alors, on dit bien qu'elle a, elle a agonisé pendant 6 mois et elle est morte ce samedi 22 août cette année-là. Bon, un pot terrible, on se trouve avec... enfin un pot terrible, je sais pas, quand même on sent vraiment que c'est... Il y a des arrêts de respiration, enfin si bon. Alors, on s'est mis autour d'elle. Et puis on a dit chapelet non-stop pendant un certain temps, pendant plusieurs heures, 7-8 heures. Et à un moment donné, elle était là. Elle ne bougeait plus, quoi. À un moment, on sent très bien, à un moment donné. Comme si, je sais pas, le corps s'endort, enfin comme s'il est, hein, comme, un peu comme quand on fait oraison, si plus rien ne bouge, tout est endormi entièrement, enfin, paralysé, si je puis dire, ça ne vit plus, quoi. Et on a l'impression que tout est dans tout se rassemble, dans le souffle. Et à un moment, elle fait comme ça, elle fait... Alors on est suspendu, si vous voulez, à son souffle. Mmh. Vous voyez ? On était tous suspendus à son souffle. Ça a duré longtemps, je me rappellerai toujours cette impression, mais ça a duré des heures. À un moment, puis pendant 20 secondes, les anciens, pour donner le nom à l'âme, ce qu'est, néphèse ou autre, le même mot que souffle. Parce que c'est au moment de la mort que c'est le plus facile de faire l'induction de l'âme. Alors, à un moment, ça a duré facilement une minute. Et puis à nouveau, c'est vraiment que. Et puis à un moment. Et au bout de deux minutes et demie, trois minutes, le père Emmanuel a dit « Oui, ça y est, vous allez. » Alors, là, c'était net, c'était...
Ouais.
Elle était partie, c'était... Ouais, c'était quand même différent hein, que les fois où ça s'était arrêté pendant une minute, mais c'était, on sentait que... Elle était partie. C'était net, hein, c'était... Ouais, bon, ouais. On a quand même attendu 2 ou 3 minutes, parce que justement, on ne sait jamais, avec Sœur Jacqueline, elle nous avait surprise toute sa vie à l'Ermitage, bon. Mais elle avait dit au Père Emmanuel, « Ah, Père Emmanuel, moi, quand je serai au ciel, bien, je viendrai vous le dire. »«
Oui, oui, d'accord, Sœur Jacqueline, bon, je vais maintenant parler des travaux que nous allons faire pour réfectionner le chemin aujourd'hui, voilà, qui est volontaire, bon, toi.
Bon, tout le monde dit, quand est-ce que, qui est-ce qui est volontaire, ça voudrait dire que tout le monde dit la passée. Bon, enfin bref, elle meurt. Et il devait être 8h du soir à peu près, 20h, 21h, même peut-être 22h, je ne sais plus, il n'aurait plus bon. Donc les sœurs vont faire le nettoyage, vont veiller le corps. Et puis nous, les frères, on devait venir à partir de minuit pour prendre la suite pour veiller le corps. Donc le père Menet s'était mis dans l'ermitage qui est au-dessus de la Dodoule. Vous voyez, il y a un ermitage, une cabane un petit peu au-dessus là, de la grande maison de la Dodoule, là, dans la pente. Donc à minuit, il sort de l'ermitage, c'est une meurtre,
bien sûr.
Il descend, Moi, je me réveille pendant ce temps-là aussi. Mais on laisse des sorties en moi. Il descend, petit chemin, et il voit une lumière. Il voit la lumière, en fait, c'était Sœur Jacqueline, la forme, de la même forme, c'était bien elle, la même forme, la petite, un petit peu, mais en lumière, si vous voulez. Elle sortait de la grange, d'où elle sortait toujours après avoir fait son chemin de croix, qu'elle faisait tous les jours dans la chapelle. Elle sortait de la grange, qui elle-même était une manière de sortir de la chapelle. Puis, elle longe le mur, comme toujours, quand elle sortait de son chemin de croix, et au lieu d'aller vers son ermitage, comme elle faisait toujours, elle s'en va vers l'Orient. Elle est allée vers l'Ouest, vers l'Est, pardon. Voilà, on perd un air, tiens, par exemple. Voilà, très bien. Alors, voilà. Alors, quand il m'a vu arriver près du corps...
Mais je m'en petit, c'est pas la peine. C'est pas la peine, je vais te coucher.
Attends, putain.
Elle est partie, c'est...
Elle était au ciel. Donc tout ça pour vous dire, voyez, il y a deux choses. Vous avez possibilité de faire l'induction de l'âme au moment de la mort de Sœur Jacqueline, c'est facile. Et puis, il y a aussi l'appréhension de l'âme une grâce surnaturelle, disons. Donc, voyez, c'est une manifestation, elle avait promis. C'est pas naturel, hein, la scène numéro 2. Mais dans les deux cas, on voit l'âme. Voyez. C'est deux manières différentes de voir l'âme. Dans un cas, c'est à travers un jugement d'existence et une induction. Dans le deuxième cas, c'est une appréhension. Je saisis l'âme. Je comprends, enfin, je l'avoue. Appréhension, hein, vous voyez la différence entre jugement d'existence et appréhension. Ce sont deux opérations de l'intelligence qui sont très différentes. Lorsque je comprends quelque chose, c'est une appréhension. C'est-à-dire cette chose est en moi, je la porte en moi, je l'ai assimilée et c'est une appréhension. Je la comprends. Parce qu'un jugement d'existence, je touche quelqu'un, et je fais un jugement, tiens, elle existe là. Quand je touche l'existence de quelque chose, on ne peut pas dire, un jugement d'existence, on ne peut pas dire que je le comprends. Mais je suis sûr que je touche le fait que, tiens, tu existes, toi, tu existes. Je ne sais pas ce que c'est que ce exister, cet être-là, mais dès que je comprends, tiens, c'est une fleur, ça c'est appréhension. L'appréhension, c'est quand ça rentre à l'intérieur de mon intelligence et que ça peut se transformer en concept, en idée, que ça y est, j'ai compris. Et le jugement d'existence me fait quand même saisir quelque chose qui est au-delà de ce que je peux comprendre. Alors ça, c'est très important parce que Dieu, si vous préférez le Créateur, je ne peux jamais, jamais arriver avec mon intelligence à le saisir à travers une appréhension. Vous voyez bien que pour Sœur Jacqueline, donc je peux faire un jugement d'existence et une induction sur l'âme. Je peux aussi, le Père Emmanuel peut voir son âme, puis évidemment avoir une appréhension de l'âme de Sœur Jacqueline. Vous voyez bien, mais on ne peut pas faire ça pour Dieu. Pour Dieu, jamais personne ne pourra avoir une appréhension, une compréhension de la nature, de l'essence, de la forme de Dieu. Jamais. Par contre, notre intelligence est capable de faire un jugement d'existence. C'est du côté, donc, non pas du côté de ce que nous comprenons qu'on peut atteindre l'existence de Dieu par voie démonstrative, mais c'est à partir du jugement d'existence, uniquement. Bon. Vous comprenez, c'est quand même très différent de dire, Michel, je le connais bien. Michel, je le connais bien, je le connais, on a discuté, je le connais à fond. Hein. Je l'ai vu qu'une fois, mais enfin, je vois qui c'est. Pas de problème. Je comprends très bien, oui, je me rappelle parfaitement. Je peux très bien me rappeler dans ma tête, oui, c'est lui. Hein? J'ai son visage, puis je vois à peu près. Hein? Bon. C'est une chose, ça. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, je peux très bien dire autre chose à propos de Michel, qui tiens, est-ce que je t'ai jamais vu, par exemple, c'est parce que je t'ai jamais vu. Et puis, il fait nuit noire. Et puis, on est dans un désert, dans le Sahara, et puis, boum, on se rencontre, on se cogne la tête l'un contre l'autre. Et tiens, il y a quelqu'un qui existe. Je touche l'existence de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, je ne comprends pas qui c'est, je ne comprends pas comment ça se fait que ce soit. Mais j'ai fait un jugement d'existence. Tiens, il y a quelque chose qui existe. Ça peut être d'ailleurs un poteau télégraphique, comme disant, pardon madame, mais il y a quelque chose qui existe. L'aide, je sais pas, est-ce que c'est Michel, est-ce que c'est une dame, est-ce que c'est un poteau électrique, j'en sais rien. Mais, ah, j'ai touché, j'ai fait un jugement d'existence. Ceci est existé. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, exister ? L'être. Parce que dès que tu commences à saisir quelque chose de la vie, ah, il y a de l'appréhension. Ah, il y a une succès, c'est un homme, ça. Ah, je commence à comprendre quelque chose, à porter quelque chose de lui à l'intérieur de mon intelligence. Tandis que dans le jugement d'existence, c'est à travers une espèce de pince, tu vois. Ceci est, je touche l'être à travers une espèce de pince. Mon intelligence saisit quelque chose comme d'extérieur. Mais, c'est très difficile de savoir ce que c'est que l'être. Hein. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que c'est grâce à l'induction que je vais mieux saisir ce que c'est que l'être. Alors, je vous ai dit souvent, regardez la différence incroyable qu'il y a entre votre nature humaine, entre votre vie, ça c'est d'un côté, votre vie, c'est extraordinaire, et puis le fait que vous existez, l'être, c'est tout à fait autre chose, j'existe. Vous ne pouvez pas faire l'induction de la substance, ni la démonstration de l'existence de l'être premier, si vous n'êtes pas capable de faire des jugements d'existence. C'est à partir du jugement d'existence qu'on peut faire une induction de la substance, une induction de l'acte, mais ça on va y venir, c'est pas pour aujourd'hui, c'est demain je crois, pour l'induction de l'acte, c'est une induction de la substance aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Après, avec ces deux inductions de la substance et de l'acte, on va pouvoir faire la démonstration de l'existence de l'être premier. On appuie sur l'induction de l'acte. Attention. Hein. Mais d'abord, il faut faire le jugement d'existence. Est-ce que vous voyez ce que c'est faire un jugement d'existence ? Existe. J'existe. J'existe. C'est pas du tout pareil que la... Je vis. C'est la vie. Enfin, c'est moi. C'est moi, il y a moi, il y a moi. C'est pas un jugement d'existence. Enfin, c'est moi, quoi. On me respecte pas. Enfin, je suis personne. Enfin, je suis digne. Enfin, j'ai droit à l'honneur. Enfin, on me reconnaît pas. Faut que personne s'occupe de moi. Enfin, ça, c'est quoi? C'est l'appréhension. Hein, vous êtes d'accord? C'est la vie. Ouais, arrête-toi un tout petit peu et puis regarde simplement. Est-ce que tu existes? Mon existence et ma vie, ce n'est pas la même chose. Le fait d'exister, j'existe. Je suis. Et Jésus, hein, donc rappelez-vous que Jésus, pareil, pour l'Eucharistie, par exemple, quand il prend du pain, le pain existe. Et c'est à partir du jugement d'existence qu'il fait la transubstantiation eucharistique. Ceci est mon corps. Ceci est l'existence de ce pain. Pulvérisé, c'est l'existence de mon corps. Ça reste apparemment du pain, du point de vue de la forme. Du point de vue de la forme, hein, ça reste du pain. Du point de vue de la... Il n'y a pas de vie, donc ça ne marche pas. Mais il aurait pris un agneau, par exemple. Il aurait pris un agneau. En prenant ceci et mon corps, il aurait pris un agneau. Il aurait pu faire l'Eucharistie avec un agneau. Un agneau vivant, tant qu'à faire. Bon. Mais il aurait pris l'agneau, puisque je suis l'agneau de Dieu, après tout. Pas, hein, donc, de prendre un agneau puis dire ceci est mon corps. Alors, on aura toujours entendu l'agneau bêlé. Il aurait continué à bêler. Est-ce qu'il pouvait faire ça? Il ne pouvait pas faire ça, bien sûr, hein, pour une raison très simple, c'est que l'âme animale est liée à un être, hein, subsistant par lui-même, qui est l'animalité. Bon, ben ça c'est un petit peu trop compliqué pour vous. Donc, mais à supposer qu'il l'ait fait, eh bien, ceci est mon corps. Il aurait pris l'agneau, et là, il y aurait toujours eu la forme d'un agneau. Il y aurait eu toujours l'âme d'un agneau, la vie d'un agneau. Mais il aurait été changé au niveau de l'être, hein, au niveau de la substance. Ceci est. Il s'attaque à la pointe du claquement. Vraiment que Jésus ne peut pas se permettre de transformer l'être de toute une animalité. Parce que s'il avait attaqué un agneau, c'est l'être de toute l'animalité. Mais un agneau n'a pas d'être par lui-même. La preuve, c'est que quand il meurt, sa vie se dissout. Son âme se dissout. Elle n'est pas immortelle. Son âme se dissout. Mais au niveau de l'être, l'être demeure de l'agneau. Puisqu'il y a plein d'agneaux. Et il y a un seul être pour une multitude d'agneaux. Pour des millions d'agneaux. Donc s'il s'attaque à l'être de l'agneau, ceci est mon corps, prend un agneau et dirait ceci est mon corps, ce serait l'être de tous les agneaux qui serait changé dans le corps du Christ. Vous vous rendez compte, hein, c'est pour ça que c'est pas... Mais le pain, c'est pas pareil. Il subsiste uniquement en raison d'une forme extérieure. Donc c'est pas un problème, c'est pour ça qu'il fallait une forme artificielle qui implique le travail de l'homme. Et c'est le travail de l'homme qui, dans sa substance, est transformé. Bon, dans le corps du Christ, dans le travail du Christ, sur la croix. Bon. Alors, ça c'est un problème différent, mais vous voyez bien qu'avec ces notions de être, de substance, etc., tout notre christianisme en est imprégné, puisque l'Eucharistie, c'est à partir de là. C'est l'Eucharistie, c'est dans un jugement d'existence qu'est la transsubstantiation. Et le miracle de l'Eucharistie, c'est de faire passer d'une substance à une autre substance, transsubstantiation. La substance du pain est transposée dans la substance du corps du Christ. Et c'est à partir d'un jugement d'existence dans lequel Jésus s'introduit par la puissance de Dieu, sa propre puissance, créatrice. Vous voyez bien que ces notions de est, ceci, hoc, est, enim corpus meum, ce est, cet être, c'est quoi? Et cette substance, l'induction de la substance, c'est quoi substance? Donc, c'est pas du tout, c'est de la philosophie, mais n'empêche que pour un chrétien, c'est une base, hein, c'est une base de compréhension, c'est une base pour comprendre. Pareil, par exemple, pour le fait que Jésus, Dieu, s'est fait homme. Et donc, le corps de Jésus, l'âme humaine de Jésus, eh bien, j'allais dire, Jésus, au niveau humain, a une âme, a un corps, mais il n'a pas d'être humain. Dès que tu dis ceci, tu touches Jésus, tu dis, tiens, Jésus est. Eh bien, le est de Jésus, c'est pas l'être d'un homme, c'est Dieu. Du côté de l'être, c'est l'être divin. C'est le jugement de la foi, hein, le jugement d'existence de la foi qui me l'indique. Mais n'empêche que c'est bien sur le plan de l'être. Hein. L'être de Jésus est éternel. L'être de Jésus, c'est Dieu. Substantiellement, au niveau de la substance, ce qui fait que l'humanité de Jésus subsiste substantiellement, c'est pas le fait que c'est un être créé. C'est pas un être créé. C'est du créateur. Donc vous voyez bien, c'est pas au niveau de la vie, c'est pas au niveau du corps, c'est pas au niveau de l'appréhension que je peux voir que je peux toucher la divinité du Christ. Hein, c'est au niveau de l'être. Donc, là encore, vous voyez bien. On dit que l'humanité de Jésus subsiste dans le Verbe de Dieu, dans la personne, en Dieu lui-même. Subsiste. Tandis que nous, notre humanité, notre âme, notre corps, notre personne, nous subsistons dans notre être, hein, qui est créé par Dieu. Donc vous voyez bien que ces notions de substance, subsistance, d'être, sont directement liées à l'induction de la substance qu'on va essayer de faire. Donc c'est quand même important, je veux dire. Vous l'avez jamais fait, l'induction de la substance. C'est vachement important. Et puis bon, vous entendez souvent, surtout si vous entendez des petits gris, qui parlent de choses. Ça, c'est substantiellement vrai. La substance, vous entendez toujours le mot substance qui apparaît, alors que dans les autres sermons, vous n'entendez pas tellement les prêtres parler de substance. Je crois pas. Mais vous voyez, donc ça, c'est très très important. Dans la scolarité des Saint-Jean d'Arc, que va faire le frère Nathanaël, là, il aura, pour l'induction de la substance, il aura 3 ans de cours, uniquement sur l'induction de la substance. Mais au moins 2 ans, en tout cas. Au moins 2 ans. Et j'espère que vous comprenez la truc vachement importante, c'est qu'il faut être très éveillé et faire des jugements d'existence. J'existe. J'existe. Tiens, quelqu'un existe. Je sais pas de regarder qui c'est qui existe. J'essaie de regarder l'existence. Je sais pas ce que je regarde. Vous voyez, à chaque fois je dis je suis. Ceci est. Il existe. Elle existe. J'essaie de concentrer mon intelligence sur ce que je saisis quand je touche, hein, vous voyez bien que le sens du toucher est très important. Quand je touche quelqu'un, ah, il existe. Je me touche, il existe. À travers le sens du toucher, mon intelligence saisit quelque chose. Vous voyez bien que ce n'est pas une appréhension, c'est à travers le sens du toucher. Donc, c'est juste mon existence, c'est ma pince, saisit quelque chose. Et je saisis ce est, existe, exister, l'être, ceci est. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce est, ce exister, c'est quoi? L'être, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est exister? Alors prenez garde parce que tout est basé là-dessus. C'est le jugement d'existence et du coup, je dis, c'est étonnant ça, parce que j'existe. Existe, je vais toucher un rocher, tout le monde cosmique existe. J'existe. Ce fait de l'être qui appartient à tellement de choses, à tellement de gens, à tellement de réalités, c'est quoi? C'est étonnant en plus. L'être, vous voyez bien que tout ce qui est vie, forme, nature, ça change, ça se met en branle. Mais en mouvement, ça diminue, ça, je veux dire, ça s'érode, ça meurt, ça vit, ça, enfin, je veux dire, ça change, ça, voyez bien. Tandis que le fait de l'être, c'est toujours la même chose, exister, l'être, exister. On a l'impression que c'est la même chose pour elle, pour moi, pour le cosmos, pour le petit chien, pour l'agneau, ça. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Remarquez bien que, je ne sais pas si, évidemment, il y a une chose que vous pouvez faire comme test en vous, en disant, voilà, je fais des jugements d'existence, ceci est, j'existe, je suis, il existe. Et puis, arrêtez-vous ne serait-ce qu'un moment, et si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas un minimum d'étonnement, d'admiration, disant qu'est-ce que c'est que ce être, ce être, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui échappe à votre compréhension, mais que vous saisissez, vous êtes sûr que c'est vrai. L'existence, j'existe, ça, j'en suis sûr. Il y a une espèce d'admiration qui commence à apparaître. C'est d'étonnement. Et du coup, on se pose la question. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui pose la vraie question. Et il va directement, il va pas au corps subtil, il va à l'être. Ça, c'est là, vous avez la différence des intelligences des gens. très intéressant de voir la différence de profondeur dans l'intelligence des gens. Il y a celui qui va uniquement au niveau du corps. Oui. Quand quelqu'un ne veut pas avoir une conversation très intelligente avec vous, il va vous parler de quoi? Ah ben sa maladie, voilà, mon fils a un furoncle, etc. C'est le corps, quoi. Uniquement le corps. Bon. Ou alors, bon, un petit peu moins grossier. Ah ben voilà, je développe des pouvoirs, etc. Je vais voir le guérisseur formidable, avec la télépathie, la médecine, formidable, ça marche bien. Ouais, je fais une conférence. Bon, troisième type de conversation. Ah ben, les sentiments. Donc, voilà, j'ai sentiments, je sens bien dans ma peau, etc. Parce que je raconter vos histoires sentimentales, ce que vous ressentez. Quatrième type, bon, ben, vous exprimez vos opinions. Cinquième type, ah ben, vous commencez à penser, à voir ce que vous comprenez profondément. Très bien. Sixième type, l'être. Allez, vous avez la substance des choses, l'existence, l'être. Septième type, évidemment, c'est la contemplation. Sept grands types de profondeur dans l'ordre de l'intelligence. Vous voyez bien souvent, la conversation des gens plafonne au premier et deuxième, pas plus en général. Bon, là, nous, ici, nous essayons de passer du sixième au septième, mais on essaie de rentrer dans le sixième, si vous voulez bien. Jugement d'existence. Ceci est. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Eh bien, je vais essayer de saisir ce que c'est que l'être, essayer de mieux comprendre ce que c'est que ce être, ce fait que j'existe. Vous voyez bien que l'âme, la vie, je l'ai saisie parce que l'induction, c'est saisie à l'âme. Et je comprends finalement ce que c'est que l'âme. Mais tandis que l'être, il va falloir faire une nouvelle induction. C'est la fameuse induction de la substance. Et l'induction de l'acte aussi. Alors là, je ne sais pas si j'ai peur de... C'est pas compliqué, hein. C'est pas que c'est une question compliquée, vous sentez bien qu'à chaque fois c'est très 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 simple. Mais bon, on est obligé quand même qu'est-ce que c'est que l'être? On est obligé d'aller d'employer un langage auquel on n'est pas habitué pour vous montrer la voie d'accès et la préparation à l'induction. Qu'est-ce que c'est que l'être? J'existe. Attention, quand vous faites l'induction de l'être, vous devez, votre jugement d'existence doit encore demeurer. On ne peut faire l'instruction de l'être que en même temps qu'on fait le jugement d'existence. J'existe. Ce est que je touche. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je me rends compte tout de suite en le touchant, en me touchant. Une fois que j'existe, que tu existes, je touche le fait que quelqu'un existe là. L'être que je touche, je vois tout de suite que ce n'est pas quelque chose de matériel, le fait d'exister. C'est immatériel. Il n'y a aucune cause matérielle. C'est totalement, j'existe, c'est totalement immatériel. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, j'espère que vous saisissez tout de suite, parce que vous posez... Ouais. Sinon, je suis dans la deuxième partie, j'ai saisi l'être. Deuxième partie, je me dis, qu'est-ce que c'est que l'être? Troisième partie... Ben, j'essaye de regarder qu'est-ce que c'est que l'être. J'essaye de commencer à répondre. Est-ce que la cause matérielle peut expliquer ce que c'est que l'être? Tout de suite, je reprends mon jugement d'existence. J'existe. Non, c'est totalement immatériel. Totalement immatériel. D'ailleurs, en plus, c'est facile. Même à la mort d'un ami, je vois que le corps de l'ami continue d'exister, d'une certaine manière. Est-ce qu'il existe encore? Difficile à dire. Difficile à dire, puisqu'il va se séparer dans les... Ce qui existe, c'est un espèce de conglomérat de cellules qui vont se séparer, qui vont s'envoler, qui vont... Alors, est-ce qu'il existe? Là, je peux plus... Est-ce que je peux encore faire un jugement d'existence sur un cadavre? C'est pas certain. Mais c'est comme j'ai fait l'induction de l'âme, l'âme existe, vous voyez, mais elle est immatérielle, l'âme. Là, rien que... Parce que j'ai fait l'induction de l'âme, je sais que l'âme existe. Ah, ben là aussi, je peux très bien faire l'induction de l'âme, et puis principe, l'âme existe. Qu'est-ce que c'est que ce l'être de l'âme? Vous voyez, la cause matérielle, c'est immatériel le fait d'exister. Rien qu'avec une induction, en voyant que l'âme existe, l'être, vous voyez bien que ce n'est pas de cause matérielle. La cause matérielle n'explique pas le point de vue de l'être. Pourtant, c'est à partir du sens du toucher que vous touchez l'être dans un jugement de l'existence. Mais ça, c'est votre intelligence qui a besoin de votre sens du toucher pour faire un jugement de l'existence. D'accord? Vous ne calez pas? Vous ne calez pas? Vous ne calez pas? Bon. Par contre, la phusis, quand vous faites l'induction de la phusis, vous voyez bien que c'est à l'intérieur d'un co-principe qui est un principe de phusis matière que vous saisissez, donc il y a une cause matérielle. Tandis que pour l'être, la cause matérielle n'a rien à voir. Donc ce n'est pas par la cause matérielle que je peux expliquer ce que c'est que l'être. Alors, du coup, je me pose une deuxième question, parce que vous savez, toutes les réalités que je constate dans la nature et qui existent peuvent s'expliquer de quatre manières possibles. Alors là, je ne vais pas vous faire la démonstration, ce serait vraiment trop long, c'est toute la philosophie grecque, mais il faut au moins 1 ou 2 ans. Ou bien la cause matérielle, ou bien la cause efficiente, ou bien la cause formelle, ou bien la cause finale. Je vous donne un exemple. C'est les 4 causes. Il y a 4 manières de comprendre quelque chose, quelqu'un, ou un phénomène. Cause matérielle, cause formelle, cause efficiente, cause finale. Cause matérielle, c'est en quoi c'est fait. C'est fabriqué avec de quoi ça? Ah, c'est fabriqué avec du fer, enfin, je ne sais pas ce que c'est en plus. C'est fabriqué avec du bois. Fabriqué à part, fabriqué avec du bois, mais c'est fabriqué en quoi? En quoi? Quelle est la matière? Ça vient d'où? La porte, ben, elle vient du chêne. C'est en quoi? J'explique déjà une première chose, si vous voulez, avec la cause matérielle. Bon, ben pour ce qui est de l'être, en quoi est fabriqué l'être? En rien du tout. Je ne peux rien répondre, ça existe. En quoi? C'est fabriqué avec quelle matière? Je vois tout de suite que la cause matérielle ne me dit rien du tout. Ça va? La cause efficiente, c'est quoi? C'est d'où ça vient? Par exemple, tu prends une bille, et puis tu fais une pichenette sur la bille, et la bille bouge. Et toi, tu te réveilles, et tu vois la bille bouger. D'où ça vient que la bille bouge? Et ça vient du fait qu'il y a eu un mouvement initial qui a été donné à la bille. Cause efficiente. Cause efficiente, c'est ce qui fait donner un mouvement. C'est ce qui fait que le mouvement que je constate a une origine de propulsion, si vous voulez. D'où ça vient? Il y a une origine génétique. Mais vous ne pouvez constater l'intervention de la cause efficiente que s'il y a un mouvement. Mais l'être ne se meut pas. Le fait que vous existez, vous voyez tout de suite que ça ne change pas. Il n'y a aucun changement, ni de vous, ni sur vous, ni sur les autres. C'est toujours le fait, la même chose. Il n'y a aucun changement. J'existe. Et de toute façon, la cause efficiente est toujours liée à la matière. Alors, donc pas de peau. Donc de toute façon, comme c'est fabriqué en rien du... Il n'y a pas de matière, donc il ne peut pas y avoir de cause efficiente. Donc la question de en quoi et de d'où ça vient, qu'est-ce qui fait mouvoir l'être, ce sont des questions absurdes. Donc il ne me reste plus que 2 questions pour comprendre ce que c'est que l'être. Alors la cause formelle, c'est quoi? C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Quelle est son essence? Quelle est sa signification? Quelle est son explication interne? Donc, par exemple, la nature de Marie-Laure, ben voilà, c'est un être humain, nature humaine. Elle a une forme humaine, c'est pas un lapin, c'est pas une chauve-souris.
Bon, vous voyez bien.
Donc la cause formelle, vous voyez, la fameuse, par exemple pour l'induction de la phusis, vous voyez tout de suite que c'est que la cause formelle. Donc, mais vous, la cause formelle aussi, vous voyez bien que la table, ben, elle a une forme de table, c'est une forme extérieure, c'est la forme morphologique extérieure, la forme naturelle intérieure, ou la forme eidétique. Par exemple, j'ai des idées, il y a une cause formelle. La forme eidétique, c'est une forme. C'est une forme immatérielle, mais c'est une forme. Ce n'est pas une forme dans le visible, ni une forme repérable au niveau de la nature. Bon, mais ça reste une forme. Bon. Alors voyez bien. Donc dans l'ordre de la cause formelle, je peux très bien avoir, c'est tout ce qui est dans le domaine de la compréhension, de l'appréhension, etc. Bon, vous voyez bien ça. C'est l'essence de la chose. La forme de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Du côté de la forme. Qu'est-ce qui fait que l'être, intérieurement, est être? J'existe. Qu'est-ce qui fait de l'intérieur que l'être est être? C'est quoi? Mais comme je constate que l'être existe, il y a forcément une cause formelle. Sinon, je ne pourrais pas constater que j'existe. Et je ne pourrais pas poser qu'à la question, qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien quand je dis j'existe, mais qu'est-ce que c'est que cet être hein? Vous voyez bien que si j'avais dit en quoi c'est, vous comprenez tout de suite, c'est absurde. Ça ne va pas. Mais si vous dites qu'est-ce que c'est, ça colle. Le seul fait que vous touchez le S, qu'est-ce que l'être? L'être, c'est quoi? Et vous dites qu'est-ce que c'est? Automatiquement, vous voyez que c'est très. Votre intelligence comprend que c'est parfaitement normal. Il faut évidemment faire le jugement d'existence. Il faut que vous saisissiez vraiment l'être. Hein? Ceci est le est. Mais c'est, qu'est-ce que c'est? Aussitôt, je dis qu'est-ce que c'est? C'est normal. Puisque je le saisis, mon intelligence le saisit. Donc, il y a une raison formelle. Il y a une cause formelle. Il y a quelque chose qui, de l'intérieur, fait que c'est l'être. C'est pas là le principe selon la forme naturelle que je saisis de moi, ou le principe source de vie qui est en moi que je saisis. Non, c'est autre chose. Donc, c'est une autre. Il y a un principe. Il y a un principe. Et donc, puisque je peux dire qu'est-ce que c'est donc qu'il y a un principe qui explique de l'intérieur qu'est-ce que c'est que l'être est l'être, et ce n'est pas de la vie. Ce n'est pas l'âme. Là, j'ai fait une petite démonstration toute simple qu'il existe un principe, mais je ne l'ai pas encore induit. Déjà, je sais qu'il y a un principe, mais je ne l'ai pas encore induit. Puisque je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Il y a un principe là. Puisqu'il y a quelque chose qui essentiellement fait que l'être est. Mais qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est? Essentiellement, l'être, c'est quoi? Ah! Ça, c'est quelque chose. Et remarquez bien, à ce moment-là, je vais maintenant faire l'induction avec vous. Pour l'instant, ça c'était l'introduction. Maintenant, je prépare avec vous le terrain. Donc, il faut une multiplicité et une unité, vous vous rappelez hein? Donc, la multiplicité, c'est que je constate premièrement qu'il y a, comme je viens de vous le dire, une essence. Il y a quelque chose d'essentiel. Il y a quelque chose qui explique de l'intérieur que l'être est formellement ce qu'il est. Sinon je ne pourrais pas le constater. Mais deuxièmement, je constate à chaque fois que je fais un jugement d'existence sur une réalité, ceci est, j'existe, à chaque fois je m'aperçois que quand je touche la réalité en question, eh ben, c'est un sujet unique, c'est un individu. C'est un sujet. Par exemple, je ne veux pas prendre ton cheveu en disant ceci est. Parce que s'il existe, c'est uniquement parce que toi tu existes. C'est la partie que... D'ailleurs, quand je te touche, ça ne viendrait pas à l'idée de dire ça, c'est la partie des cellules que je touche qui existe. C'est tout. C'est l'individu que j'atteins. Et pour tous, c'est comme ça. Par exemple, si je touche une pierre, un rocher, c'est un caillou, je dis le caillou existe. Enfin, l'être, il y a quelque chose qui existe, mais je vois très bien que c'est pas ce caillou-là qui existe, c'est l'existence de tout ce qui est minéral. C'est l'être du minéral, de tout le minéral que je touche. Le caillou, lui, il n'existe pas, puisque je le casse en deux, c'est plus, il n'existe plus. J'ai à nouveau deux autres cailloux. Donc j'ai deux au niveau individu. Je peux mettre deux individus au niveau de la phusis, ça oui. Mais au niveau de l'être, non. Ça va? Donc à chaque fois que je fais un jugement d'existence, j'atteins, je le fais à travers un individu. Donc apparemment, l'être, l'existence, individu la réalité, et en même temps, donne son essence à cette réalité. Alors Aristote, il va dire, il y a à chaque fois que je saisis un jugement d'existence, que je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Je m'aperçois qu'à chaque fois que je fais un jugement d'existence, que je touche vraiment l'être, je suis sûr que c'est l'existence que je touche, je m'aperçois que la réalité que je touche à travers le jugement d'existence, eh ben, c'est un individu, c'est une substance sujet, et c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelqu'un qui a une nature essentielle, qui a une forme essentielle, pas une forme accidentelle. Je ne peux pas faire un jugement d'existence sur la goutte de confiture. Accidentelle. C'est une forme essentielle de l'intérieur, cette réalité a une forme essentielle qui subsiste par elle-même, si vous voulez, et puis en même temps, c'est un sujet unique, c'est un individu. Donc j'ai deux choses totalement différentes, j'ai l'essence et le sujet. L'essence, c'est pas le sujet. Par exemple, c'est une nature humaine que je touche à travers cette réalité qui existe ici. Nature humaine, c'est l'essence. Et un temps, c'est un individu bien particulier. Hein. C'est pas Eric que je touche, c'est Marie-Laure. C'est un individu bien particulier, bien individué. C'est pas du tout pareil, dire nature humaine et un individu. Substance sujet, substance essentielle. Substance première, substance seconde. C'est substantiel de dire c'est un individu. C'est substantiel de dire c'est une nature humaine. Et donc j'ai bien ici deux choses substantielles, totalement différentes, et que je saisis à travers un unique jugement d'existence. Donc il faut bien un principe pour expliquer qu'il y a ces deux choses. Et à chaque fois que je fais un jugement d'existence, il y a toujours un individu particulier, une substance sujet, et une substance essentielle, une substance seconde. Donc forcément, alors là je ne peux pas faire l'induction à votre place, il a forcément... Il y a un principe dans l'ordre de l'être qui fait que l'être est être. Et le principe selon la forme de ce qui est en tant qu'il existe dans une réalité que je touche et que je vois qu'elle existe, bah, cette substance que j'induis, c'est l'ousia. En grec, c'est ousia. O-U-S-I-A. Ousia. L'ousia. C'est Aristote qui dit ousia. L'ousia. La substance. Alors j'ai ici fait l'induction de la substance. Et je vois tout de suite que quand je reviens ayant fait l'induction de la substance en disant ceci existe, ben oui, ceci existe, ben oui, il y a l'ousia qui fait que l'être que je touche, qui est le mien, c'est le plus facile de faire le jugement d'existence sur soi. Hein. C'est là où c'est le plus facile. Ou sur quelqu'un que tu es à côté aussi, hein, un être humain. Hein. Il existe. En regardant bien, il existe. Bon, très bien. Parce qu'à ce moment-là, quand je regarde bien, je vois que c'est quand même un sujet bien individué. Et puis, en même temps, que c'est une nature humaine. Quelque chose de bon. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, à ce moment-là, vous voyez, ayant saisi l'ousia, ça, j'ai fait l'induction. Alors, à ce moment-là, je reviens, je réfléchis. Et je dis, mais oui, mais l'ousia, en effet, ça va dans les deux directions. J'existe, ben oui. Ça fait que cette réalité que je vois qui existe, eh ben, elle subsiste. Elle subsiste tout le temps. Elle subsiste dans l'ordre de l'être. Il y a une subsistance, il y a une permanence. Je subsiste, j'existe, je subsiste toujours dans l'ordre de l'être. J'existe toujours, je subsiste. Une des propriétés de ce principe que je viens d'induire, c'est la subsistance. Je subsiste dans l'ordre de l'être. Et la deuxième propriété, c'est l'individuation. Parce que je subsiste, certainement dans l'ordre de l'être, mais à travers une réalité bien concrète, individuée, et donc c'est c'est ce qui fait, cette individuation fait que je suis vraiment un sujet et pas un autre. Je suis unique. Donc l'individuation comme la subsistance sont des propriétés de la substance. De sorte que, vous voyez, c'est pour ça que cette propriété de la substance est quelque chose de très important. Parce que regardez bien que on le dit pour, alors là, parenthèse de théologie, n'est-ce pas? Enfin, je sors de la philosophie. Quand on dit que Jésus, par exemple, est Dieu et homme, eh bien l'homme en Jésus subsiste en Dieu. Parce que nous, nous subsistons dans l'être que nous sommes. Tandis que c'est la propriété de... Il n'y a que pour Jésus. Que la nature humaine de Jésus ne subsiste pas dans un être humain. Mais la nature humaine de Jésus subsiste dans l'être divin. Parce que la substance qui individue Jésus, qui lui donne son individuation, c'est Dieu. Donc c'est pour ça que quand on formule le mystère de l'incarnation, on va employer une propriété d'un principe qu'on a obtenu par induction à partir de l'être. Et vous commencez à comprendre pourquoi énormément de chrétiens, de prêtres, de théologiens, etc., sont incapables de parler du Christ correctement parce que ils n'ont jamais fait donc l'induction de la substance, alors que l'Église demande que tout le prêtre fasse 4 ans de métaphysique. C'est, l'induction de la substance, c'est la porte d'entrée en métaphysique, un jugement d'existence. Le pape a toujours demandé que les prêtres fassent tous 4 ans de métaphysique. Mais 95% des prêtres n'ont jamais fait de métaphysique de leur vie. Il y a eu un colloque, je ne sais plus quand, à l'époque de Paul VI, là, un discours du mercredi, où le pape Paul VI avait dit, voilà, le grand problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que l'Église et les théologiens sont devenus des fidéistes. Ça veut dire que je ne peux pas atteindre l'existence, l'être de l'homme, ni l'être de Dieu, que par la foi. C'est Luther, ça. C'est du fidéisme. Non. L'intelligence est capable d'atteindre l'être des choses et l'être divin par lui-même. Et c'est le grand problème d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le fidéisme. Le fidéisme, c'est une hérésie. 95%, c'est un cardinal, justement, à cette époque-là, 95% des théologiens, des théologiens sont fidéistes de l'Église catholique. 95%. Ça veut dire que compris quoi. Alors nous au moins soyons les théologiens, n'est-ce pas, de l'Église. Et donc vous dites ceci est, donc est-ce qu'il faut que je reprenne l'induction de la substance? Ah, je vous ai fait rapidement, mais il est quelle heure? On a commencé à quelle heure? 9h. Je fais un petit résumé quand même, mais j'espère que vous voyez que c'est très très important pour l'Eucharistie. Ceci est mon corps, c'est une transsubstantiation. Et pour le mystère de l'incarnation, l'humanité sainte de Jésus subsiste dans l'être du personnel de Dieu. Et plein de choses comme ça que je n'ai pas en tête dans notre foi, si on ne vise pas où c'est, alors vous comprenez, on se met à dire, quoi, c'est le divin qui se mélange à l'humain, est-ce que c'est un mélange? Ce serait une cause efficiente. Non, c'est une subsistance, donc c'est par le point de vue de l'être. Dès que Saint Jean se met sur la poitrine de Jésus pour entendre le cœur qui bat, c'est extraordinaire. Il fait un jugement d'existence, mais l'être qui touche, c'est Dieu. C'est extraordinaire. Mais c'est bien le cœur humain qui bat. C'est un cœur humain qui bat. Mais s'il fait un jugement d'existence, comme moi, je fais un jugement d'existence sur moi, j'existe. Et quand j'entends le cœur de Jésus qui bat, il existe. Jésus existe, le Messie qui est là, mon maître existe. Et bien, quand je touche l'être, c'est Dieu que je touche. C'est génial. Quand je communie, c'est pareil. C'est
le corps de Jésus existe. Et bien l'être du corps de Jésus, c'est Dieu. Mais c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est un corps humain. Mais quand je communie, je me nourris du corps humain avec le corps de Jésus. Mais si je vais jusqu'à l'être, ah, ça y est, je me nourris de Dieu. Et donc, il faut savoir faire des jugements d'existence. C'est ça la vie contemplative, la vie spirituelle. Alors, vous voyez bien que ceci est, j'existe, est. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est quoi ce est? C'est quoi? C'est fabriqué avec quoi? Bah, c'est pas fabriqué avec de la matière, de cause matérielle dégagée. Ça vient d'où? J'existe, puis c'est tout. Ça vient. Ça change pas. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun mouvement. Tandis que, vous voyez, pour l'induction de la phrosis, c'est à travers des mouvements, c'est à travers des changements, c'est à travers un mouvement extérieur ou intérieur que je pouvais saisir la forme naturelle. Vous ne verrez jamais une forme naturelle sans mouvement, sans devenir. Il n'y a aucun devenir pour l'être. J'existe. Tu peux pas arrêter l'être. Donc, cause efficiente dégagée. En plus, c'est sans matière. L'être, on voit tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Mais enfin, chaque fois que je vois que j'existe, c'est quand même un sujet bien individué, substantiellement, substance première, c'est un suppôt, qui est bien individué. Et puis, il y a quelque chose de substantiel, ce qu'on c'est une nature humaine. La nature humaine, c'est quand même quelque chose qui est au-dessus de tout ça. C'est une vie, quoi, c'est au-dessus de... C'est essentiel, hein. C'est substantiel. Quoi. Alors, il y a deux substances premières, substances secondes. Il y a deux aspects substantiels. Dans le point de vue de l'être qui est unique. Donc il y a forcément un principe qui explique ça. De l'intérieur de l'être, et j'ai induit, j'ai compris que c'est la substance qui, de l'intérieur, fait que l'être est être. Ça va? Alors à ce moment-là, je comprends que c'est à cause de la substance que l'être subsiste toujours, et qu'il individue la réalité qu'il fait exister.
À partir de là, qu'on peut démontrer l'existence de Dieu.
Oula ! Pas du tout. On ne peut pas, justement, absolument pas faire. Là, ici, j'aiguise votre intelligence pour apprendre à faire une induction. Et vous verrez qu'il faut sans doute faire 5 inductions en même temps pour arriver à l'existence de Dieu. Là, j'essaie de faire une induction l'une après l'autre. Hein. Mais vous allez voir que pour la démonstration de l'existence de Dieu, il faut faire toutes les inductions en même temps.
C'est clair.
Mais c'est une démonstration, donc c'est pas une induction. De toucher l'existence de Dieu, c'est pas par induction, mais c'est une base d'induction que je rassemble, c'est une induction analogique synthétique. Et donc il va falloir bien travailler. Donc vous voyez, l'induction de la substance est quelque chose de très important, mais c'est surtout l'induction de l'acte qu'on verra en principe dans une heure.